France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Stop, basta, extinction des écrans pour plusieurs heures, deux jours souvent. Écran noir pour respirer, souffler, penser à soi, aux autres, aux proches, sortir, se connecter à une autre vie que la vie numérique. Ces moments de saturation et d'épuisement informationnel se multiplient, amplifiant une fatigue croissante face aux injustices, amplifiant aussi une forme d'impuissance culpabilisatrice. Et cette question lancinante, comment aller bien dans un monde qui va mal? Alors attention, je vais vous divulgâcher une partie de l'émission, c'est possible. Oui, on peut aller bien dans un monde qui va mal. Et vous, comment allez-vous? Est-ce que l'état de la société influe sur votre morale? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France, et vous pouvez également nous laisser un message sur WhatsApp. Nous sommes le mardi 22 juillet, vous écoutez France Inter, grand bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter. Grand bien vous fasse, Eva Rock.
Messieurs Larieux, je voulais vous remercier d'avoir fait cet éloge de la gentillesse. Je crois en fait que c'est une qualité qu'on ne met jamais assez en avant et qu'il y a des gens qui passent comme ça dans la vie. Moi j'ai eu la chance de grandir avec beaucoup de gens comme ça autour de moi, avec discrétion et gentillesse, et qui passent dans la vie comme ça.
C'était au printemps dernier, Karim Leclou recevait le César du meilleur acteur pour son rôle dans le roman de Jim des frères Larieux et nous offrait un magnifique éloge de la gentillesse. Prenez la gentillesse, la force du collectif aussi. Ces mots résonnent à un moment où la société semble si anxiogène. Alors comment aller bien dans ce monde qui va mal? On se pose toutes et tous cette question et nos invités aussi. Bonjour Nelly Ponce.
Bonjour Eva Rock.
Vous avez exercé un tas de métiers. Aujourd'hui vous êtes autrice et vous venez de publier aux éditions Actes Sud un récit puissant qui est intitulé Le Grand Épuisement, on va en parler ensemble. Bonjour Renaud Etier.
Bonjour.
Vous êtes philosophe de l'éducation, vous enseignez à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Vous êtes également auteur d'un essai passionnant intitulé « Saturation, un monde où il ne manque rien sinon l'essentiel » et c'est aux éditions PUF. Et bonjour Camille Test.
Bonjour Eva.
Ancienne journaliste, vous êtes professeure de yoga et autrice d'un livre inspirant dont nous allons parler, « Politiser le bien-être » paru chez Binge Audio Édition. Je répète, Binge Audio Édition. À tous les trois, ma première question, elle est très complexe en fait, vous allez voir. Nelly, vous allez commencer par y répondre, mais comment allez-vous?
Je ne m'attendais pas à celle-là. De manière mitigée, peut-être comme nous tous, bien par moments, un peu de découragement à d'autres, une forme de fatigue, de lassitude et puis parfois une joie intense et une envie d'y aller quoi.
Camille Test.
Très heureuse parce qu'il fait beau et que c'est l'été et abasourdie par l'actu et donc pareil, un peu toujours entre les deux, une sorte de zone grise un peu.
Oui, surtout qu'on vient d'entendre les infos que vient de nous donner Anne Domès. Renaud Etier, comment allez-vous ce matin?
C'est un petit peu comme Camille, c'est-à-dire ça dépend de l'échelle à laquelle on se pose la question. Dans ma vie personnelle, tout va très bien, mais en fait, dès que j'ouvre un peu le regard sur l'horizon, c'est plus difficile parce que l'état du monde, en fait, est plus inquiétant.
Oui, c'est de ça dont nous allons parler ce matin. Nelly Ponce, si je vous avais posé la question il y a une dizaine d'années, vous auriez répondu quoi?
Je vais bien, merci.
Vous allez bien, merci. vous êtes passé par un épisode très dur, vous avez fait ce qu'on appelle un burn-out. Vous le racontez, votre corps qui lâche dans ce livre, hein, vous dites... tu lâches, glisse, tout est noir, et respiration. Est-ce que vous aviez eu des signaux d'alerte à ce burn-out?
Oui, j'en avais eu tout un tas depuis des mois, sauf que j'étais en incapacité de les voir. Ouais. Donc souvent, les personnes qui arrivent en phase finale d'un burn-out, ce qu'on appelle le burn-out sévère, le moment où la maladie se déclenche à la fin du processus, on a l'impression que ça arrive soudainement. Parce que de fait, un matin, le corps cède. En revanche, effectivement, en lien avec la question que vous venez de poser, ça s'installe. Ça s'installe pendant des mois, voire des années. Il y a tout un tas de signaux. Et dans l'étude clinique de ces syndromes d'épuisement, il est montré qu'à un moment donné, il y a une forme d'acharnement et de déni intense. Et là, la personne n'est plus en capacité de voir. Et même quand on vient lui dire « Tu sais, là, je commence à m'inquiéter », elle n'est même pas en capacité d'accueillir cette chose-là. Donc, je suis passée par toutes ces phases, bien évidemment. Et il y a un moment, il y a une forme de dissociation avec le corps. On n'est plus en capacité d'écouter les signaux. Donc, le corps, par exemple, on pourra en revenir tout à l'heure sur les choses plus positives, va être notre plus puissant allié.
Bien sûr.
Pour aller bien.
Oui, mais là, moment où vous faites ce burn-out, c'est votre corps, il est condamné à l'immobilité.
Ah,
c'est ce que vous dites, hein,
oui.
Vraiment.
Oui, c'est une perte de repère totale. C'est-à-dire que ce qu'on fait naturellement depuis qu'on est né, quasiment se lever, lever un bras, avoir son cerveau qui dit bah, « le téléphone sonne, ouvre les yeux », c'est devenu complètement impossible.
Et est-ce que vous avez l'impression à ce moment-là que le monde vous engloutit, qu'il y a quand même une relation avec le monde qui va si mal?
Pas encore.
Pas encore. C'est juste, c'est après, quand
c'est
vous
après.
Avez commencé à
c'est quand
réfléchir.
J'ai commencé, effectivement, quand une médecin du travail m'a expliqué quels étaient les invariants des périodes d'épuisement, vraiment m'expliquer la sortie de la responsabilité individuelle, comprendre que les causes sont structurelles, sont systémiques, essayer de voir quels sont les facteurs qui nous amènent dans ces processus-là. Là, comme je suis par ailleurs très engagée sur les questions d'écologie, le lien m'est paru de manière évidente en me disant mais finalement personne n'en parle, mais les épuisements humains de type syndrome d'épuisement, burn-out, l'épuisement des ressources, l'épuisement du vivant, finalement ne serait-il pas le fruit d'un même système? Et c'est tout l'objet de mon
mais
livre.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que le récit de votre burn-out, il dépasse en fait votre récit personnel. C'est en ça que c'est extrêmement intéressant de vous le dire, de vous lire, pardon, et de vous le dire aussi. Avec cette médecin du travail qui vous raconte les phases, donc l'engagement, le surengagement, l'acharnement et qui amène à l'effondrement, vous posez cette question, est-ce qu'on n'est pas en train de traverser collectivement ces phases? Et c'est pour ça qu'on voulait aussi vous inviter pour discuter de tout ça. Camille Tess, est-ce que, pardon, avant de passer à vous Camille, je voudrais juste insister sur un point que vous dites, Nelly, en introduction de votre livre, enfin en tout cas dans les premières pages, il est important de rappeler que non, le burn-out n'est pas un effet de mode pour hyperactif, c'est grave, c'est extrêmement dangereux. Vous dites même, c'est une marche funèbre qui peut conduire au décès. Je voulais qu'on le précise, parce que parfois, on prend ça avec un...
C'est un terme qui est très galvaudé, qu'on prend de plus en plus avec de la légèreté. Il y a une stigmatisation qui propulse les personnes qui le vivent dans une honte sociale qui est inacceptable. Du coup, oui, dans les premières pages, c'était important pour moi de poser cette chose-là, de ramener le sérieux sur ce sujet-là et de pouvoir en parler en politisant l'intime.
On est d'accord. Et politiser le bien-être avec Camille Test aussi, parce que c'est l'intérêt de votre livre. Camille, est-ce que vous avez connu ces moments de trop-plein qui conduisent un peu à un épuisement, voire à un effondrement?
Et disons que je les connais en fait encore. J'ai commencé à travailler comme journaliste il y a 12 ans et la première année, j'étais déjà à moitié, enfin, un pied dans le burn-out. Et ça s'est jamais vraiment arrêté. Les seuls moments où ça s'est arrêté, c'est les moments où j'arrivais vraiment à couper avec l'actu, à couper avec la vie. Je suis militante féministe par ailleurs, donc j'avais besoin de ces espaces à moi. Et puis dès que j'y retourne, dès que je retourne dans l'engagement, dans l'actu, dans comprendre le monde, c'est évidemment hyper important pour moi de regarder le monde qui m'entoure, mais ça vient avec effectivement cette impression de devoir faire quelque chose, mais parfois en fait un peu comme une souris qui court dans du lait là, pour le transformer en beurre, on se retrouve à être épuisé et à pas trop toujours savoir quoi en faire, donc il y a toujours un peu, on est toujours un peu sur le fil quoi. Je connais pas de gens engagés ou sensibles au monde qui les entoure, qui sont pas toujours un peu sur cette corde raide, quoi.
J'aime beaucoup le mot sensible que vous avez utilisé, on va en reparler dans la suite de l'émission. Mais alors, combien de fois, au premier coup de mou, on vous a pas dit « Oh, tu devrais faire du yoga, tu vas voir, ça fait du bien
» Mais en fait, donc moi...
Vous êtes d'accord, on l'entend souvent cette phrase.
Bien sûr, mais en fait, moi, quand je suis devenue journaliste, puis je suis devenue prof de yoga. Et je l'ai fait notamment parce que j'en avais marre d'être juste une tête intellectuelle connectée au monde et j'avais envie de faire des choses avec mon corps en me disant bah voilà, le yoga ça va me sauver en quelque sorte. En fait, pas du tout. Je pense que c'est un peu l'arnaque de ces pratiques qui est que effectivement à la marge ça fait du bien, mais c'est un pansement dans un monde qui va mal, dans un monde qui n'est pas structuré pour favoriser notre épanouissement. Quand on y pense, c'est un petit peu ridicule de penser qu'avec trois postures de yoga et de la méditation le matin, on va s'en sortir.
Non, mais ce qui est extrêmement intéressant dans votre livre, c'est que vous expliquez comment le néolibéralisme en fait a envahi aussi cette sphère du bien-être. Alors on parle du yoga, mais c'est aussi les autres pratiques. On a l'impression que le bien-être est devenu une sorte d'impératif moral et que le côté bien de la chose, comme on pouvait l'imaginer, en fait, parfois peut aussi nous enfoncer, quoi.
Ce qu'il y a, effectivement, c'est que ça fait 30 ans que le bien-être est de plus en plus à la mode, où effectivement, on nous pousse à faire du pilates, de la méditation, du sport, manger bien, faire ce qu'on appelle des morning routines, donc on se lève le matin, on médite, on mange des fruits ou je ne sais quoi. Et en fait, tout ça est concomitant avec le néolibéralisme, donc qui est un capitalisme boosté aux hormones qui vient jusque dans tous les interstices de notre vie privée pour nous obliger disait, voilà, à marcher droit, à être responsable de notre bonheur, de notre malheur, et pour nous faire croire surtout que c'est purement individuel. C'est-à-dire, ouais, si vous voulez être heureux, bah faites ça, et puis à la fin, vous serez heureux. En réalité, ça, ça cache le fait qu'une société qui n'est pas structurée pour favoriser notre épanouissement, voilà, ces pratiques à la marge, elles peuvent servir, mais pas plus. Et donc, il y a cette arnaque. Ça ne veut pas dire que ces pratiques, elles ne sont pas intéressantes, mais ça veut juste dire qu'il ne faut pas les prendre pour ce qu'elles ne sont pas, quoi.
Oui, il faut peut-être les repenser, ce que vous faites dans le livre. Vous précisez les chiffres du marché du bien-être. Vous les avez en tête ou vous les... Enfin, moi, je les ai sous les yeux, là.
À l'époque du livre, donc il y a deux ans, c'était 4,9 milliards de chiffre d'affaires. Et maintenant, c'est incroyable, c'est 6 ou 7. Et dans deux ans, ça sera 9 000 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est l'un des marchés les plus en croissance du capitalisme mondial.
133 milliards en France en 2020, ce que vous dites. On comprend bien l'importance de ce marché. Renaud Etier, moi, si je devais résumer votre livre de façon très caricaturale, ne m'en veuillez pas, mais ça pourrait être « Trop, c'est trop ». En fait, on est dans un monde où on est saturé et le monde sature.
Oui, c'est ça. Il y a cette double dimension d'une saturation individuelle, personnelle, subjective même, parce qu'on est pris de plus en plus par un travail qui constitue une charge mentale, parce qu'on est débordé par les activités, c'est la famille, c'est les activités de loisirs qui deviennent des obligations, c'est la multiplication des écrans et des possibilités de se distraire. Et puis, il y a une autre dimension qui est celle de la saturation de la Terre, du système Terre, puisque nous sommes confrontés maintenant de façon très évidente au dérèglement climatique, au réchauffement climatique. Et en fait, nous saturons aussi le monde qui nous renvoie à nos limites, puisque en fait, en se dégradant, il commence à nous empêcher d'être plus libres.
Oui, et cette saturation, elle nous amène à une perte de sens, selon vous, hein ?
Oui, parce qu'en fait, ce que je sais d'exprimer, c'est qu'on se remplit surtout de choses vides, en fait. Mmh. Et que donc, plus on se remplit, plus on se vide. Il y a un paradoxe évident là-dedans, dans le sens où on passe à côté de l'essentiel.
Oui, l'essentiel, passer à côté de l'essentiel, ça a été une de vos questions, Nelly Ponce, quand vous avez fait cet épisode de burn-out, et après, quand il faut relever la tête et repartir et se reconstruire.
Oui, quand le corps cesse de fonctionner à l'habituel, il faut trouver de nouveaux leviers. Ouais. Et c'est là que ça devient intéressant, même si sur le moment, on s'en passerait bien quand même, mais ça a une dimension intéressante avec du recul. C'est qu'on peut commencer à aller explorer plein de contrepoints, en fait, des représentations habituelles. Là où la volonté est survalorisée, la dimension cognitive, on va aller chercher quelque chose de beaucoup plus doux. On va aller comprendre que la vulnérabilité, la sensibilité, a dit Camille tout à l'heure, est une force extrêmement puissante et que notre monde devrait s'inspirer en fait de cette vulnérabilité et de cette sensibilité pour justement revenir à l'essentiel, se poser la question de nos priorités, pas que individuellement évidemment, mais aussi collectivement.
Grand bien vous fasse. Eva Rock sur France Inter.
On n'a pas la joie de vivre actuellement. Entre les catastrophes naturelles, entre les incendies, entre les attentats, tout est anxiogène.
On est juste bombardé par des images, des articles sur la guerre et sur l'inflation et que ça domine, on va dire, le discours ambiant. C'est évident que ça influe sur nous.
En fait, j'allume la télé, j'écoute surtout la radio, qui sont peut-être un peu moins anxiogènes parce qu'il n'y a pas les images.
J'arrête de regarder les informations. Tout ce qui est plutôt plateforme, réseaux sociaux type Twitter, on voit vraiment des choses sans filtre.
Je prends l'information, l'émotion vient sur le moment, et puis après, il faut tourner la page et faire autre chose, et pas faire que ça et pas rester bloqué là-dessus.
Extrait d'un micro-trottoir réalisé pour l'émission C'est à vous, c'était en 2023. Comment aller bien dans un monde qui va mal? C'est la question que nous posons avec nos invités, les autrices Nelly Ponce et Camille Test, professeurs de yoga par ailleurs, et avec le philosophe et enseignant Renaud Etier. D'ailleurs, je voudrais vous lire, on a beaucoup déjà de messages d'auditeurs et d'auditrices. Noël qui nous dit « Je vais beaucoup mieux depuis que j'ai supprimé les réseaux sociaux et les jeux de mon téléphone suite à un burn-out et une séance psy où je souhaitais arrêter de me faire du mal. J'ai retrouvé du temps, du sommeil, je me souviens de mes rêves, j'écoute le silence. Bref, je vais mieux. » C'est quelques pistes qu'on peut exploiter quand on lit ces messages. Ezi nous dit par exemple « Stop à l'injonction à aller bien et si aller mal était tout simplement un symptôme de bonne santé mentale. » Camille Test, vous voulez répondre ?
Ouais, c'est vrai que cette injonction à aller bien, elle est très grave parce que évidemment qu'on va mal dans un monde qui va mal, et en fait c'est plutôt signe de bonne santé et du signe qu'on est effectivement des êtres sensibles avec une réaction à ce qui se passe. Je voudrais rebondir sur le premier premier commentaire, le premier message.
De Noël, oui.
Moi, je suis toujours assez inquiète à la fois de... Enfin, je comprends qu'on se coupe des informations, je comprends qu'on se coupe des réseaux sociaux, ça nous épuise, et à la fois, on a besoin de comprendre comment le monde fonctionne, on a besoin d'être sensible aux injustices, enfin, se couper du monde quand Gaza, se couper du monde quand Trump, quand l'Ukraine. Enfin, pour moi, c'est très difficile de trouver cet équilibre. Je comprends quand on a sa vie, son quotidien, etc., qu'on n'est pas forcément ça à gérer en plus, et à la fois, ce monde, il continue à tourner à l'envers parce que on ne fait rien des informations qu'on nous donne. Donc pour moi, c'est comment est-ce qu'on transforme les informations terribles qu'on reçoit toute la journée en pouvoir d'action. Et ça veut dire s'engager, ça veut dire voter du bon côté, on va dire, sans influencer qui que ce soit. Et en tout cas, ça veut dire être sensible et se rappeler qu'en fait, on est tous des éléments d'un même écosystème et que évidemment, si ça va mal en Palestine, ça va mal ici, c'est normal.
On a beaucoup dit le mot interdépendance depuis le début de l'été dans cette émission, mais je crois qu'il sera encore au cœur de notre réflexion. Nelly Ponce, vous vouliez réagir stop à l'injonction à aller bien, c'est ça ?
Oui,
ce que vous dites dans votre livre. Hein.
Quand j'ai lu le titre de votre émission, je me suis dit ça en premier en disant mais en fait c'est plutôt bon signe d'aller mal dans un monde malade. C'est quelque part un signe de vitalité intense et d'insoumission aussi. Quelque chose qui se dit non, il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Et donc cultiver cette insoumission-là fait partie des choses aussi qui peuvent nous aider à nous mettre en lien, à nous mettre en mouvement, à condition, et ça a été dit aussi, que ça ne devienne pas une injonction.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est aussi de se déculpabiliser de cette chose-là, de ne pas s'en inquiéter. Les études par exemple sur l'éco-anxiété, donc ce spectre d'émotions que l'on peut ressentir face aux catastrophes écologiques à l'œuvre, nous montrent qu'en fait ce n'est pas tant les catastrophes qui rendent anxieux, tristes, en colère ou quoi, mais c'est l'inaction gouvernementale, le manque de réponse à ces catastrophes-là. Donc quelque part, le lien entre notre état de santé mentale et notre capacité à s'inscrire dans le monde, à agir et à influer sur ce monde est très imbriqué. Ouais. Donc l'enjeu, personne n'a la réponse, on ne sait pas comment faire, et je pense que c'est vraiment à chacun d'aller trouver sa propre voie là-dedans. Mais je suis assez d'accord avec Camille, l'idée de se couper est quelque chose de nécessaire, circonscrit dans un temps,
c'est ça,
dans un cadre, pour retrouver du souffle, parce que du vide naît la créativité, naît l'envie, naît l'élan. Ça, je l'ai expérimenté pour être restée assise sur un canapé pendant des mois. C'est vraiment un endroit de créativité absolue, ouais. Et la créativité est quelque chose qui nous nourrit profondément et qui nous permet de nous réinscrire dans le monde différemment.
Alors, je crois que Renaud Etty, vous pouvez que réagir à cette notion de vide, parce que vous faites bien le distinguo dans votre livre entre vacuité et vide. Ce vide, ça peut être un espace de liberté absolue, en fait.
Oui, alors la distinction entre vacuité et vide, elle n'est pas dans le dictionnaire, en fait. Puis certains auteurs emploient l'un pour l'autre. Simplement, là, puisque deux mots existaient, ça m'a permis de faire une distinction conceptuelle qui me paraissait nécessaire. Donc, dans la vacuité, on peut se remplir tout en se sentant vide, en fait. Le vide, c'est ce qu'on pourrait appeler, un petit peu dans le fil de la philosophie taoïste, un espace-temps suffisamment dégagé, à l'intérieur duquel on va donc pouvoir s'investir, mais sans injonction extérieure. Donc ça suppose de pouvoir faire une expérience du silence, une expérience de l'immobilité, une expérience donc qui soit en fait suffisamment libre pour que quelque chose de soi puisse s'exprimer et quelque chose du monde puisse venir jusqu'à nous et qu'on y soit disponible et réceptif.
Je voudrais revenir sur cette notion de numérique dont on parle depuis le début effectivement de l'émission. Et Camille, je pense que vous avez raison, on ne peut pas se couper du monde si on veut le comprendre. En fait, ce que vous expliquez, Renaud Etty, aussi, c'est plus, non pas ne pas regarder les infos, mais c'est le phénomène de saturation en fait, qui nous perturbe et qui fait qu'on peut, à un moment donné, craquer.
Oui, j'évoque, j'essaie toujours d'utiliser des concepts, le concept d'hypercommunication, c'est-à-dire que l'hypercommunication, c'est quand on ne peut plus ne plus communiquer. Et pour le dire d'une façon un petit peu cocasse, quelqu'un qui ne vous répond pas, c'est qu'il est mort aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est devenu impensable, en fait. Donc, on doit toujours être en contact, on doit toujours répondre, on doit toujours être près de son smartphone. Et on voit bien que, du coup, c'est une forme de réquisition dans la présence et il n'y a plus d'alternance. Parce qu'en fait, on ne peut pas être toujours bien, on ne peut pas être toujours contemplatif, toujours méditatif, mais on a besoin d'alternance. On a besoin de dormir, on a besoin de souffler, on a besoin de s'arrêter. Et ces moments-là, le problème avec le numérique, c'est qu'ils sont supprimés, puisque le numérique crée un fil continu, on est toujours connecté, on est toujours en interaction.
Vous avez un exemple qui nous a beaucoup parlé dans l'équipe, c'est que vous nous dites l'expérience de la séparation n'existe plus avec le numérique. Oui. On est toujours connectés les uns aux autres. Résultat, la joie qu'on peut avoir au moment des retrouvailles, ça aussi, ça disparaît.
Oui, on n'a plus rien à se dire.
Ouais, je précise Renaud Etty, mais parce que moi, ça m'a beaucoup marqué dans votre livre, vous donnez des tas d'exemples comme ça. Ça semble évident quand on en parle comme ça, mais vous mettez des mots sur des situations très concrètes du quotidien où on se dit, mais là, vraiment, on sature totalement d'informations, notre pensée est saturée, nos gestes sont saturés, la planète est saturée. Vraiment, c'est dans tous les domaines de notre vie quotidienne.
Oui, oui. C'est vrai qu'à force de communiquer comme on le fait, dans une forme d'hypercommunication et ce que j'ai appelé aussi une forme d'hyperprésence, du coup, on arrive à des formes d'absence. C'est-à-dire que quand on est en présence, on n'a plus ce ressort qui a pu être remonté dans une absence réelle et qui permet, en fait, de nourrir le désir, de nourrir la curiosité, de nourrir l'attente.
Et alors, ce qu'on comprend aussi à travers vos mots, c'est que c'est la notion de temps qui doit être redéfinie. Nelly Ponce, vous écrivez « Il fallait habiter l'instant ». Enfin, j'ai appris à habiter l'instant. Ça a l'air tellement simple à le dire comme ça, mais en fait, ça a été un travail très long pour vous, non ?
C'est très compliqué. Ouais. En plus,
encore aujourd'hui, j'imagine.
Je suis née à la campagne, j'ai fait un burn-out à la campagne, jeune maman, dans une vallée magnifique. Donc, ce que j'aime bien dans mon histoire, c'est qu'elle est anti-cliché sur le sujet. Et donc, j'étais déjà dans cette sensibilité, déjà dans cet amour-là. Je donnais déjà une priorité à mes relations. Donc, il y a un moment donné, moi aussi, je vais faire appel du coup à un concept d'un penseur philosophe allemand que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est un des grands penseurs de l'accélération. Et il n'a pas choisi la question du ralentissement comme antidote, il a parlé du concept de résonance. Et la résonance, c'est exactement ça, c'est quelle présence j'ai dans le monde, comment je me laisse traverser par ce monde-là. Ça, j'en ai fait l'expérience dans ma chair, c'est vraiment une question de habiter l'instant, c'est quelque chose qui est excessivement compliqué, on ne peut pas tendre à ça en permanence, mais c'est retrouver une forme de disponibilité intérieure qui est un luxe dans cette société aujourd'hui et qui nous permet encore une fois de nous connecter à des formes d'évidence qui apparaissent et à côté desquelles on est passé complètement. Je donne un exemple, votre auditeur tout à l'heure ou dans un message parlait des incendies, c'est quelque chose d'extrêmement frappant pour moi quand les populations évacuées rentrent chez elles, que les médias disent pas de victimes. Ouais. Quand on habite le monde, quand on est présent et disponible à ce monde-là, on se dit mais il y en a des milliards de victimes. Tous les non-humains qui ont été décimés, que ce soit des végétaux, des animaux, des micro-organismes, etc. Comment peut-on encore écrire cela en 2025 ou dire cela? Voilà. Pour moi, c'est ça, habiter le monde, c'est vraiment comme le dit Hartmut Rosa, finalement, entrer en résonance. Attention, c'est un peu comme un phare dans la nuit, c'est quelque chose d'excessivement difficile, mais je trouve ça assez intéressant d'explorer ces pistes-là.
Je crois qu'il y a un autre auteur qui vous inspire, mais qui vous inspire aussi Camille, et qui vous inspire aussi Renaud. On va l'écouter.
L'un des symptômes de cette crise de nos relations au vivant, c'est une crise de la sensibilité. On a une sensibilité au vivant qui est très appauvrie dans notre perception physique et aussi dans nos formes de savoir, dans nos manières d'interpréter et dans notre manière de, ne serait-ce que de poser le problème de qui sont les autres vivants. C'est pas du tout la même chose, même quand on fait de la biologie ou quand on s'intéresse aux arbres, de les interroger comme des parents, mais qui sont simultanément des aliens, c'est-à-dire des altérités radicales, que de les interpréter comme des organismes biologiques. C'est autre chose. Il y a une autre attitude philosophique qui, à mon sens, mérite d'être défendue.
Baptiste Morisot, c'était en 2020, dans La Terre au Carré, embrasser le monde de manière plus sensible. Moi, j'ai l'impression que c'est totalement déterminant. On essaye de le justifier tous les jours dans cette émission. Qu'est-ce que vous en pensez, Camille Test? On a oublié d'écouter nos émotions et d'être sensible aux sensibles.
Moi, je vais raconter une histoire un peu cliché, mais il y a 4 ans, j'ai déménagé en zone rurale. Donc maintenant, j'habite dans un village et sans fantasmer la ruralité, parce que c'est aussi des endroits qui sont frappés par les difficultés du monde de plein fouet, on le sait, les déserts médicaux, par exemple. C'est vrai que c'est quand même des endroits, moi, j'habite à 1 mètre d'une forêt, quoi. Enfin, je fais 3 pas, j'arrive dans une forêt. Ce sont aussi des espaces où on n'est pas nombreux, on se connaît entre voisins. Il y a un café dans mon village, tous les matins, je peux aller m'asseoir sur la terrasse et puis attendre de voir un peu ce qui se passe. Et puis potentiellement parler à des gens. Et ça, pour moi, ça a été pour la première fois, parce que j'ai vécu très longtemps dans des grandes villes, etc., l'expérience de ce que ça peut être de se reconnecter avec un peu plein de petites choses du quotidien, que ce soit le vivant au sens les arbres, la nature, les oiseaux, mon chat qui sort sur la terrasse ou les gens du café à côté de chez moi, quoi. Ça change tout. En fait, je crois que ça a vraiment changé mon rapport au monde, si bien que parfois, quand je reviens comme aujourd'hui à Paris, je me dis waouh, mais en fait, il y a tellement de bruit, il y a tellement de sollicitations. sollicitations, il y a tellement d'intensité, de gens qui marchent vite, qu'il n'y a aucun moyen de connecter avec son environnement, à part, et je le déplore un peu, et ben, dans le cadre par exemple de la fête, se mettre en terrasse le soir, boire des bières, ce qui à mon sens est une façon qui est chouette et à la fois un peu triste de se remettre dans le présent, qui est d'utiliser des substances extérieures. Ça m'inquiète un peu, pour être honnête, ce truc-là.
Renaud Etier, vous parlez de cette hyperstimulation qui est propre à notre société et en fait qui nous amène à une forme de désensibilisation, c'est le terme que vous employez.
Oui, c'est ce qu'on fait en allergologie, on désensibilise et je crains qu'on le fasse de manière plus générale dans notre société actuelle. C'est-à-dire qu'à force d'exciter certains sens, ben, on les appauvrit en fait. Parce qu'on les sature. Et on a toujours un...
saturation auditive.
Je cours pour me maintenir en forme. Et de plus en plus, je croise des gens qui ne répondent pas quand on leur dit bonjour parce qu'ils sont dans leur bulle avec leurs écouteurs. Et quand on prend les transports en commun, tout le monde est sur son écran. Et je crains que du coup, cette façon de faire une bulle, de s'enfermer dans une bulle, coupe de la possibilité de sentir le monde. Par exemple, en ce moment, il y a des très beaux nuages. Est-ce qu'on prend le temps de les regarder parce que le temps est en train de changer? Est-ce qu'on peut encore contempler et éprouver des émotions qui ne sont pas dues à l'artificialité?
Nelly Ponce, vous avez eu cette impression aussi d'être coupée de votre sensible à un moment donné et qu'il fallait aussi se réapproprier tout cela?
C'est difficile à dire. Il y a dans les processus décrits sur les burn-out une forme de cynisme à un moment donné qui est décrit dans le processus. Je n'ai pas l'impression de l'avoir ressenti, mais peut-être je me voile complètement la face. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment... Disons que les choses qui m'animaient, qui étaient importantes pour moi, sont restées à peu près les mêmes, mais ça va être ma manière de les habiter qui a changé, et l'importance aussi que je vais donner à certains signaux. C'est aussi un changement dans les représentations, parce que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ça demande de lâcher certaines certitudes. Par exemple, je me suis construite sur l'idée que dans la vie, il fallait être fort, on s'en sortait seul, contre vents et marées, parce que j'étais bosseuse et volontaire, je m'en sortirais toujours. En l'occurrence, ce trait de personnalité qui est reconnu, hein, les personnalités à risque sur les burn-out sont souvent les moteurs dans les organisations, des gens qui ont un engagement extrêmement fort, qui sont capables de soulever les énergies, etc. C'est quelque chose qui m'a finalement desservie. Oui. Donc effectivement, je pense que c'est intéressant, on le disait tout à l'heure, on parlait de sensibilité, au tout début quelqu'un a parlé de gentillesse, en fait c'est d'aller poser la puissance aux antipodes quelque part de là où on la pose collectivement aujourd'hui dans notre société. Et ça, pour le coup, ça a été un renversement pour moi, parce que je n'échappais pas à la règle de... Oui. Ça n'arrive qu'aux autres. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Je suis une battante, une vraie. Bon, ben non, c'est n'importe quoi tout ça.
Camille Test.
Oui, cette idée d'hyper-indépendance et d'hyper-autonomie, je la trouve assez délétère et je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyablement puissant à prendre conscience qu'en fait, et ça nous vient beaucoup des philosophies du care, qui sont des philosophies féministes, qui nous font prendre conscience qu'on est des êtres, on est tous et toutes des êtres vulnérables, parce qu'on a été des bébés, parce qu'on sera des vieilles personnes, parce que parfois on est malade, parce que parfois on a des peines de cœur, voilà, et que du coup, on a besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Et je trouve que on a tendance à perdre un petit peu ça dans la culture néolibérale. Et en fait, dès qu'on en reprend conscience et qu'on l'accepte surtout, il y a quelque chose d'incroyable qui se met en place, qui est très simple, c'est qu'on peut demander de l'aide et on peut se sentir légitime à en recevoir. Et ça, je trouve que ça change la vie profondément.
Eva Rock. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Ouvrez les yeux. Les issues bien plantées dans le sol, je me grandis.
C'est super dur, non? Concentre-toi. J'y arrive pas, j'ai trop de trucs en tête, là. Écoute, c'est toi qui m'as fait chier avec ton yoga, ton moment présent à la con, donc tu le fais. J'ai couché avec Romain. Non, 6 fois. Comment on passe de... Il est moche, je vais lui parler. Ah, j'ai couché avec lui. Je sais pas. Je me suis dit que ça venait peut-être de moi, que je devais faire un effort.
Séance de yoga pour Bouchon et sa sœur. Je vous recommande cette série, elle est disponible sur arte.tv, donc intitulée Bouchon et le yoga ne va pas sauver notre héroïne de son mal-être. Camille Test, on ne sauve pas le monde avec des séances de yoga, on est bien d'accord, vous nous l'avez dit dès le début de l'émission.
Ou alors il faudrait en faire vraiment beaucoup.
Et je rappelle que vous êtes prof de yoga. Et avec vous, ainsi qu'avec Renaud Etier, philosophe de l'éducation, et Nelly Ponce, autrice, on tente de trouver des solutions pour aller bien dans ce monde qui va mal. Vous le voyez, j'ai beaucoup de messages de nos auditeurs et auditrices. Je voudrais voudrais juste vous en lire deux. Françoise qui nous dit « Quand on a vécu un burn-out, qu'on a pris le temps de réfléchir à faire autrement pour aller bien, le parcours est très long pour revenir à soi, être en phase avec soi-même, se sentir aligné dans sa vie, dans ses projets. » Vous l'avez vécu cette période très longue, Nelly Poncin.
Ah oui, oui, complètement. Ouais. Le livre là, par exemple, 10 ans de délai par rapport à l'épisode, et il faut bien ça en fait pour ce recul-là. Il m'a fallu 3 ans pour retravailler sans pouvoir reprendre mon métier d'avant, et 7 ans pour sentir que j'ai eu une revanche cognitive sur la maladie.
Le passage où vous racontez que vous êtes licencié est d'une extrême violence, moi j'ai trouvé, parce qu'on vous déclare inapte en fait, alors que vous êtes au moment où vous commencez à sortir la tête de l'eau, où vous commencez à sentir mieux, que vous comprenez qu'il vous faut du temps, et on vous dit, dans la société, ce temps-là, on l'a pas.
Tout à fait, c'est un changement de case. Je suis passée de la case arrêt maladie à la case inapte, chômeuse, inapte, licenciée pour inaptitude, travailleuse handicapée, parce que du coup je leur ai dit, mais est-ce que je peux chercher du travail si je suis pas en capacité de travailler? Vous inquiétez pas, tout est prévu, vous allez faire un dossier de demande de travailleur handicapé, et puis tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Bon, c'est vraiment le parcours du combattant, et c'est effectivement d'une grande violence, vécue souvent dans une grande solitude.
Oui, le mot solitude revient régulièrement dans vos pages. Je voudrais vous lire deux autres messages, et je pense que ça va vous faire réagir. Hugo nous dit, dans une de vos dernières émissions, vous parliez de citadelle intérieure. Il trouve que ça résume bien la situation. C'est pas se couper des informations, mais être capable de se construire une carapace pour résister face à l'afflux de mauvaises nouvelles ou de catastrophes qu'on subit toute la journée et auxquelles notre sensibilité est confrontée. Je pense que ça revient à ce que vous disiez, Renaud Etier, d'essayer de lutter contre cette saturation dans laquelle on est pris en permanence. Et je voudrais vous lire le message d'Astrid qui me paraît extrêmement important. Elle nous dit, la plupart des Français ont des vies bien remplies. Quand on est ouvrier à l'usine et qu'on revient et qu'on s'occupe de ses enfants, on n'a pas le temps de se demander si on peut avoir du silence. En fait, ce qui rend heureux dans la vie, c'est de sentir utile. Camille Tess, vous vouliez réagir à ce message?
C'est vrai que moi, c'est une remarque qu'on me fait souvent, de me dire, mais quand on a une vie difficile, avec, je sais pas, on travaille beaucoup, on est mal payé, on a des enfants, ou alors, tout simplement, on est victime de discrimination, je sais pas, on est victime de racisme au quotidien, de sexisme, d'homophobie, de transphobie. Oui, quand on est dans ce genre de situation, notre rôle, déjà, c'est de survivre. Si après, on peut s'engager, on peut être utile, c'est génial. Si on peut prendre du temps pour soi, c'est génial aussi. Ce que j'observe en fait, c'est que souvent, étant entouré de plein de gens de milieux différents, ce sont pas les plus privilégiés qui font le plus pour transformer cette société, justement, pour permettre à des gens qui sont confrontés à des conditions de vie beaucoup plus difficiles d'avoir cet espace. Ouais. Donc pour moi, ce que j'invite les gens qui ont la chance d'avoir des privilèges, d'avoir du temps, d'avoir peut-être de gagner un peu d'argent, d'avoir, bref, peu importe, de s'engager davantage, justement, pour rééquilibrer un petit peu la charge de tenir cette société, quoi, pour permettre à des gens qui le sont moins, justement, d'avoir des espaces de respiration. C'est pas normal, en quelque sorte, que finalement les loisirs, le temps libre, les temps de respiration, de marcher en forêt et tout, ce soit toujours les mêmes qui en profitent. C'est même assez scandaleux quand on y pense.
Oui, alors est-ce que la question qui est sous-jacente aussi à ce que nous dit Astrid, c'est que ces questionnements que nous avons, nous, dans ce studio ce matin, est-ce que c'est pas un luxe de les avoir? Est-ce que tout le monde a le temps de se poser ces questions-là?
Mais c'est drôle parce que, en tant que militante féministe, on me pose toujours la question sur le féminisme en me disant, mais finalement, c'est un luxe de bourgeoise que de se questionner sur les inégalités femmes-hommes, etc. Oui, peut-être, sans doute qu'il faut du temps pour se poser ces questions. Mais en fait, ce temps, on l'a, et on va le prendre et puis on va améliorer la société.
Oui. Nelly Ponce, ce grand épuisement dont vous parlez, cet effondrement, c'est une histoire de corps. Hein, vous le disiez en début d'émission. Dans le livre, vous parlez de la danse, du jardinage, du plaisir à mettre les mains dans la terre. Votre reconstruction, elle est passée par cette forme d'apaisement corporel?
Oui, il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre de... Alors, c'est un mot pas très joli, mais de la reconnexion. En tout cas, dans le processus qui mène à l'épuisement, il y a un moment de dissociation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, réinvestir son corps, habiter à nouveau le corps est quelque chose, est une piste extrêmement puissante. En revanche, faut pas... j'ai pas envie de tomber non plus dans le côté développement personnel. Enfin, on en parle depuis tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir aussi peut-être transposer ça à la société et de se dire, mais quel serait ce corps, en fait? Quel serait ce corps social que nous aurions besoin de réhabiter, de réinvestir? Et on parlait tout à l'heure de la relation à titre individuel, et je pense que cette notion d'interdépendance, cette notion de lien, cette notion de relation, de corps social, pourrait être une piste aussi de travail collectif. Votre auditrice a posé la question de l'inégalité, en fait, face à toutes ces questions-là. Effectivement, il ne faut pas 100% d'une société qui change pour que la société bascule. Donc il revient en fait aux plus nantis d'entre nous, à ceux qui ont justement les compétences, les outils, la disponibilité, le luxe de le faire, de travailler pour que structurellement cette société repose des valeurs communes autour justement de ces relations interdépendantes, de ce corps social, etc. À titre individuel, effectivement, la connexion au corps est quelque chose qui peut être assez moteur parce que lui a des limites qu'on a tendance à oublier et ne pas accepter quand on ne raisonne qu'avec notre intellect.
Oui, Renaud Etier, il est saturé aussi, notre corps, dans la société.
Oui, je crois. Et puis, il faut dire que la saturation n'est pas seulement un problème de riches, en fait, oui, et que ça traverse toutes les classes sociales. Je prendrais juste un exemple qui est maintenant un petit peu connu, mais c'est le fait qu'on a des phénomènes d'obésité au Mexique dans des régions pauvres, parce que les boissons gazeuses et sucrées finissent par être vendues moins chères que l'eau. Eau qui est d'ailleurs pompée pour produire ces boissons. Donc ça, c'est vraiment le capitalisme dans toute son horreur. Et en fait, le corps lui-même se retrouve débordé par le sel, le sucre, la graisse, et au risque de rendre malade, en fait, au risque d'être en surpoids. Aux États-Unis, 70% des personnes sont en surpoids, dont 30% sont obèses. Et c'est un phénomène pionnier, puisque en fait, les sociétés occidentales tendent à rejoindre le modèle américain. Donc là, le corps est en souffrance de ce point de vue-là, et un corps qui se retrouve en surpoids ou en obésité, c'est un corps moins disponible, dont on peut moins faire l'usage.
Oui, la disponibilité, c'est aussi un terme qu'on retrouve dans vos ouvrages respectifs. Camites, ce corps, il est encore souvent oublié, je pense aux études que vous avez faites à Sciences Po, il n'était pas du tout au cœur de la réflexion, ce corps. On a l'impression qu'il n'existait pas, en fait.
Oui, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fascinée durant mes études. Effectivement, Sciences Po, c'est une école qui forme les décideurs et les décideuses de demain. Des futurs ministres, des journalistes, voilà, des avocats, et en fait, c'est un espace où le corps n'existe pas, où on travaille énormément, où ce qui est valorisé, ce sont les nuits sans dormir, voilà. Le fait de, je sais pas, d'enchaîner la fête, les examens, et où en fait le bien-être, le plaisir dans le corps, le repos sont des choses qui sont pas du tout valorisées. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut espérer fabriquer des dirigeants, des décideurs, des décideuses qui ont une infime conscience du corps quand en fait ils en ont été coupés toutes leurs études et même sans doute avant. Et on le voit très bien dans la façon dont nos décideurs aujourd'hui pensent les corps. Je sais pas, on l'a vu pendant la réforme des retraites, par exemple. Enfin, comment peut-on imaginer que ce soit... comment cette idée qu'il faille travailler plus longtemps... alors que souvent les gens qui travaillent, c'est épuisant. On le sait très bien, travailler. Et puis nous, on a des, là autour de cette table, on a des vies plutôt privilégiées, mais on sait très bien qu'il y a des métiers qui épuisent le corps. Si on ne pense pas concrètement ce que c'est qu'un corps qui souffre, on ne peut pas penser une société qui nous épanouit. Donc c'est vraiment pour moi la question de effectivement renouer avec le corps. Alors il s'agit pas de dire il faudrait qu'on fasse un cours de yoga tous les matins à Sciences Po, mais il s'agirait juste de dire est-ce que à un seul moment dans vos études vous vous êtes posé la question du corps? En réalité, je pense que jamais.
Ben on va dire, j'espère que le message est passé. Avec un peu de chance, si vous en écoutez, vous allez avoir du boulot à la rentrée, vous allez voir. Mais alors, comme vous pensez les cours de yoga comme des lieux politisés, en plus, je pense que ça pourrait très bien leur convenir. Je voudrais qu'on donne la parole à Philippe qui nous appelle de la Garenne-Colombes. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci de nous avoir appelé au Standard de France Inter. Vous êtes enseignant, c'est cela?
Complètement.
Et alors, comment vous réagissez au thème de cette émission? Comment aller bien dans un monde qui va si mal?
Alors, d'abord, premièrement, c'est vrai que moi, je me retrouve face à un public d'élèves très divers. Et mon plaisir, quand vous aimez votre métier, ça se transmet. Et la première chose, évidemment, c'est de dire à mes jeunes, attention, on va communiquer ensemble, mais pas à travers vos réseaux sociaux. Donc, petit à petit, assez rapidement même, je dirais, on écarte le téléphone portable et on apprend à s'écouter et à se regarder, parce qu'on oublie que c'est une donnée importante en aménagement de l'espace. Et deuxième point, petit à petit, alors madame parlait de la notion de corps, mais la notion du corps et de son entretien est capitale. On oublie que quand on fait une activité, il faut s'échauffer.
Ouais.
Vous ne travaillez pas, madame, en vous lançant encore perdu, ce qu'on vend trop souvent, malheureusement, en vous lançant encore perdu, comme vous l'imaginez, dans une activité où on va, par exemple, prendre un souffleur à dos qui fait de 7 à 12 kilos, pardon. Tout ça se fait en s'apprenant et en s'entraidant. Donc, petit à petit, mes mômes, qui ont de 15 à 20 ans, prennent ces réflexes, s'approprient évidemment tout ce qui de tout ce qu'ils sont obligés de d'apprendre quelque part pour leur programme. Mais tout ça se fait dans une bonne humeur, une bienveillance. Je n'aime pas beaucoup le mot critique. Je préfère qu'ils se conseillent les uns les autres. Et à travers une manière de fonctionner, vous voyez petit à petit des gamins qui s'approprient leur diplôme, qui s'approprient leur formation. Et j'ai expliqué à votre responsable que là, je sors d'une promotion. Alors, ils ont eu 100% de réussite.
Bravo.
Bon. Oui, mais en même temps, c'est un boulot où il y a eu petit à petit une présence, parce que vous informez les parents aussi de ce que vous faites, puis vous mobilisez un certain nombre de vos collègues. Moi, il y a des collègues qui arrivent, madame, le matin, ils arrivent dans une humeur, mais massacrante. Oui, évidemment.
Donc ça influe, ouais.
Voilà. Ah mais non, mais je peux pas travailler avec des gens qui arrivent le matin, qui font une tête de 3 km, qui sont agressifs parce qu'ils ont passé une trois quarts d'heure dans un bouchon. Mais, vous voyez, en mettant en place une façon de, j'allais dire, par étape de travailler, et bien petit à petit, on récupère des mômes qui n'étaient que dans des univers que je qualifie souvent d'artificiels. Pour le moins.
Ouais. Merci infiniment de nous avoir appelés et votre témoignage est inspirant. Merci beaucoup Philippe d'avoir appelé au standard de France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Maîtresse, on fait quoi ?
Alors les enfants, on va dire que ici c'est notre base. C'est là où on se regroupe. On va définir un périmètre, on va dire que vous ne dépassez pas de cet arbre-là jusqu'à cet arbre là-bas. D'accord ? Dans ce périmètre, vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez courir, vous amuser, vous pouvez observer les insectes, vous pouvez jouer avec des pommes de pin, vous pouvez faire des petites constructions avec des bâtons. Mais on se fait pas mal et on fait pas mal aux copains, ok ? Allez vous amuser les enfants !
Vous avez vu ce formidable enchaînement ? C'est un enseignant qui nous appelle et on avait prévu un extrait d'un formidable film de Karine May et Hakim Zouani qui s'appelle La Cour des Miracles. Quand une institutrice en fait décide de sortir les élèves de l'école, une école qui est coincée entre quatre barres d'immeubles, pour leur faire découvrir la nature, elle va juste dans le parc d'à côté. Mais ça redéfinit aussi le lien avec le vivant dont on parlait depuis ce matin. Je voulais vous demander des nippons en écrivant ce livre. Est-ce que l'écriture, quelque part, elle est devenue une façon de s'engager pour vous?
Ah oui, complètement.
Ouais.
Moi, je suis sortie du terrain parce que j'ai fait un burn-out sur le terrain. J'étais déjà engagée et militante. Donc, le terrain est devenu un peu interdit pour moi, comme un brûlé qui peut plus s'approcher du feu. Donc, j'ai dû trouver une autre manière de m'engager. Ça passe par l'écriture, la transmission. Et finalement, je crois que c'est un endroit où je me sens à ma place. Donc, ça, c'est chouette. Est-ce que je peux rebondir?
Mais bien sûr.
J'ai pas pu m'empêcher, quand vous avez passé l'extrait de cette institutrice,
oui,
qui pose le cadre et qui dit « vous êtes libre à l'intérieur de ce cadre ». En fait, je rêvais de voir nos dirigeants en leur disant « vous voyez cet arbre, c'est la limite planétaire, changement climatique, celui-là c'est les fondements de la biodiversité,
rigole, mais vous avez tellement raison.
On a 9 limites planétaires, allez, amusez-vous les grands, mais vous restez dans le cadre en fait ». En fait, ça, quelque part, c'est ça qu'on doit... Pardon, hein, c'est un peu décalé comme...
Mais vous c'est faites ça qu'on, Camille, est...
qu'on est appelé à faire collectivement, c'est-à-dire réintégrer la limite. On a parlé du corps, mais la planète peut être vue aussi comme un corps, comme un grand écosystème qui a ses propres besoins, ses propres fonctionnements, ses propres limites. On a cet outil des limites planétaires qui, je trouve, est extrêmement puissant et puis fait comprendre les interdépendances. Et ben voilà, c'est comment est-ce qu'on réintègre la limite, mais comment est-ce qu'on retrouve de la joie à l'intérieur du cadre, en fait. C'est quelque chose que, voilà,
on l'entend avec cet extrait.
Non, mais j'imaginais nos politiques qui couraient
et pour tout vous dire, si vous n'avez pas vu le film, je vous divulgâche un peu, mais les gamins, ils sont super contents et c'est la joie qui les anime au quotidien. Résultat, ils vont ramener la nature au milieu de la cour de bétonnée.
Vous me posez la question de l'écriture, tout artiste le sait, la contrainte génère de la créativité.
Ouais.
Donc en fait, on devrait poser des contraintes à nos politiques, le respect de la justice sociale, des limites planétaires, et de leur dire, bah, maintenant amusez-vous, quoi. Allez-y, créez, participez à le construire ce monde.
Renaud Etier, vous en parlez beaucoup de la créativité, notamment pour ce vide qui est un espace de liberté, en fait, et qui nous permet de créer. Mais je me suis demandé, est-ce que vous, l'écriture a participé à combler ce vide dont vous parliez ?
Oui, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on pourrait en fait investir son activité professionnelle, son activité intellectuelle comme une manière de combler le vide. Alors, je vais témoigner de mon travail de manière très personnelle, mais en fait, cette écriture-là a été tout à fait singulière, c'est-à-dire que je n'ai pas été capable de forcer, en fait, c'est-à-dire de m'obliger, de pousser, etc. Il a fallu que j'attende de me sentir calme, disponible, sans pression, pour pouvoir écrire. Donc j'ai écrit dans un état de non-saturation. Ça s'est produit comme ça.
Et c'est
c'était
la
première fois.
Ouais, c'était la première fois que vous écriviez dans cet état-là.
Oui, là. Oui, tout à fait.
Et Camille Test, est-ce que vous avez écrit en l'absence de saturation et avec des outils numériques loin de vous?
Saturation totale de mon côté, pour être honnête.
C'est vrai.
Peut-être c'est une question d'âge. Non, moi j'écris sous beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. J'essaie de trouver des moments. C'est un peu chaotique. J'appelle mes parents en leur disant mais pourquoi je fais ça? C'est horrible. Mais finalement.
Voilà. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que malgré toute la réflexion que vous avez et ce dont on parle depuis ce matin, vous vous retrouvez encore dans des mécaniques et dans des processus où vous saturez, où il y a un trop-plein régulièrement?
Mais tout le temps, parce qu'en fait, ce monde, il est structuré comme ça. Donc, donc c'est très, très difficile, je trouve. Enfin, c'est un privilège et un luxe que je n'ai pas pour l'instant d'être capable de me mettre en retrait, peut-être du fait de mon âge, peut-être parce que... voilà, enfin, il y a plein de raisons, mais oui, c'est un luxe de... Alors, j'arrive quand même, avec cette réflexion, à ralentir, à trouver des espaces. Vous le disiez, je suis en zone rurale, c'est peut-être un peu plus simple par certains aspects. Mais oui, non, j'espère progresser, en tout cas, un peu plus sur cette question-là. Quoi.
Je vous laisse la parole, Camille Test, parce que chaque fin d'émission, on termine avec ce que j'ai appelé vos coups de cœur, c'est-à-dire ce petit truc en plus qui nous permet de poursuivre la réflexion autour de la thématique que nous avons abordée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré, un livre, un film, ou une citation ou un son dont vous avez envie de nous parler?
Alors moi, il y a un livre qui me guide, c'est un bouquin en anglais, c'est The Big Magic. En français, c'est Comme par magie, donc ça fait un peu cliché, c'est un bouquin d'Elizabeth Gilbert qui est une autrice américaine qui a vendu des best-sellers et c'est un bouquin sur la créativité, on parlait de créativité, qui nous explique comment utiliser notre créativité, pas que quand on est artiste mais en fait, peu importe ce qu'on fait, on peut avoir un rapport au monde créatif, c'est-à-dire s'imposer dans le monde avec sa patte, ça nous nourrit et c'est comme ça qu'on change le monde, c'est avec la créativité, je crois.
Nelly Ponce?
Alors moi j'ai envie de vous parler de cet essai qui est devenu connu mais que j'aime vraiment beaucoup, Mieux vaut couler en beauté que flotter sans grâce, de Corinne Morel-Darlieu, qui réhabilite entre autres la dignité du présent, qui est vraiment une notion qui peut nous guider, en fait, comment se dresser en dignité, en fait, pour moi c'est ça, aller bien aujourd'hui.
C'est ça, ce dont vous parliez tout à l'heure, habiter cet instant. Et vous, Renaud Etier?
Alors c'est une bande dessinée, ou peut-être un roman graphique, c'est difficile de faire la différence, qui s'appelle L'Oasis, c'est une vraie merveille, et de Simon Huro chez Dargo, et en fait on voit, il se met en scène, et ils achètent une maison avec un grand jardin qui a été en partie bétonné, un peu à l'abandon, etc. Et il va redonner vie au jardin, et la vie va s'inviter dans le jardin, il va voir revenir d'elle-même des espèces qui avaient disparu, et en fait c'est vraiment une sorte de miracle qui se produit de façon tout à fait réaliste.
Merci infiniment, on va mettre toutes les références de ces œuvres évidemment sur la page de l'émission que vous retrouvez via l'application de Radio France. Merci infiniment à tous les trois pour la qualité de cet échange et je renvoie nos auditeurs et auditrices à la lecture de vos ouvrages. Nelly Ponce, Le Grand Épuisement, c'est aux éditions Actes Sud. Renaud Etier, Saturation, c'est aux éditions PUF. Et Camille Test, Politiser le bien-être, est paru chez Binge Audio Édition. Elle me rend la vie meilleure, je vous assure. À la réalisation, Valérie Ayestaraï, Anna Massardier, Jessica Bagic, Noélia Filiol et Elina Garcia, sont à la préparation de l'émission. Et en régie ce matin, il y avait Adèle Caglar et Pauline Laverdure.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.